Pour la prédication de ce matin, nous allons poursuivre dans le thème du mois qui était celui de la parole de Dieu. Certains d'entre nous étaient présents à l'étude biblique jeudi soir que Étienne Gros-Renaud a pu apporter sur ce thème de la Bible, la parole de Dieu. C'était, je crois, le thème, c'était la parole de Dieu passionnément, quelque chose comme ça. La Bible est un livre unique. Elle a été composée sur près de 15 siècles par plus d'une quarantaine d'auteurs différents. Et elle contient énormément de livres, 66 livres. Et dans ces livres, beaucoup de genres littéraires, même différents. Et pourtant, elles forment un tout par lequel Dieu a choisi de se révéler à l'humanité perdue, par lequel Dieu parle à l'humanité que nous sommes. Et dans ce beau livre qu'est la Bible, nous trouvons un certain nombre d'images, alors là on va apprendre un petit mot ce matin ensemble, d'images circonlocutoires. Alors ça veut dire quoi ? C'est juste pour apprendre un mot. Hein. Ça veut dire que la Bible utilise des images pour parler d'elle-même. Circonlocutoire, voilà, vous aurez appris ce mot. Jésus, par exemple, quand il utilisait par exemple l'expression « le Fils de l'homme hein, », par exemple, est venu pour donner sa vie en rançon, ben, c'est une expression circonlocutoire. C'est lui qui l'utilise pour parler de lui. Et ben, la Bible utilise aussi des images pour parler d'elle-même. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de voir ensemble quelques images que la Bible utilise pour parler d'elle-même et ce que nous pouvons aussi en tirer d'un point de vue pratique. Et nous allons commencer par un verset bien connu qui nous dit que la parole de Dieu est une lampe. C'est dans le plus long chapitre de la Bible, le psaume 119, au verset 105, que nous pouvons lire « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Avez-vous déjà descendu des escaliers dans le noir? Oui, je pense qu'on s'en souvient quand ça nous est arrivé. C'est le genre de moment où on ne sait pas trop où poser son pied, alors on va doucement, on tâtonne devant soi et on est un petit peu perdu. Mais si à ce moment-là, quelqu'un de bienveillant, nous entendant galérer dans l'obscurité, allume la lumière, on reprend vite et rapidement tous ses repères. La Bible représente un peu cette lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dans la Bible, vous le savez, notre monde est à la fois décrit comme la belle création de Dieu, dont les êtres humains font partie, mais aussi comme un monde d'obscurité, car les êtres humains ont voulu vivre sans Dieu. Mais la parole de Dieu, justement, vient apporter un rayon de soleil, une grâce lumineuse pour que les hommes dans le noir puissent malgré tout avoir une belle vue sur la gloire de Dieu et entrer, attirés par cette lumière, dans le royaume de Dieu. Et cette lumière, c'est celle de l'Évangile qui éclaire le chemin qui mène à celui qui est lumière. La parole de Dieu est une bénédiction pour l'humanité tout entière, car elle contient tout ce qui est nécessaire à notre salut et à notre marche chrétienne. La Bible ne répondra pas nécessairement à toutes les questions que l'on peut se poser, mais elle contient ce qui est nécessaire et suffisant pour trouver le chemin du salut et marcher dans la fidélité sur les traces de Jésus-Christ. Encore faut-il l'ouvrir. La Bible n'est pas une lumière sur notre sentier si elle reste sur l'étagère. Je vais vous raconter un petit témoignage. C'est mon papa, il a 18 ans, il est catholique, né dans une famille catholique, et il fréquente à 18 ans le GBU, parce qu'une amie l'a invité au GBU, et il découvre vraiment à ce moment-là la parole de Dieu et ce que contient vraiment la Bible. Alors il rentre à la maison et il demande à son papa, est-ce qu'on a une Bible à la maison ? Et son papa lui dit, oui, oui, on a une Bible. Et il va en haut d'une étagère, un endroit inaccessible, sortir un gros livre tout poussiéreux. signe qu'il n'avait pas été ouvert dans cette famille, et se mettent à la lire de façon personnelle. La Bible ne sert à rien, il ne sert à rien de posséder simplement une Bible si on ne l'ouvre pas et qu'elle reste sur l'étagère et prend au fil des semaines la poussière. Ouvrir sa Bible, mais pour quoi faire ? Alors bien sûr, pour la lire. Mais pourquoi la lire ? Le culte ne suffit-il pas ? Et puis, je préfère peut-être que Dieu me parle directement. Après tout, si Dieu a quelque chose à me dire, pourquoi j'ai besoin de faire l'effort d'ouvrir un livre ? La Bible est aussi trop difficile à lire. Alors, peut-être on raisonne des fois un petit peu comme ça. Mais alors, je voudrais vous poser une question. Pourquoi est-ce qu'on préfère regarder sur Internet, en tout cas pour ceux qui regardent des choses sur Internet, des vidéos de chats qui font du skate sur YouTube, plutôt que de lire la Bible ou prier le Seigneur? Si on mesurait à sa juste valeur le trésor que représente la Bible, une telle attitude serait de la folie. Quand on pense à la réalité du salut, de Jésus-Christ, de l'éternité, c'est insensé de se priver, de plonger ses regards et son cœur dans la parole de Dieu. Alors bien sûr, il ne faut pas tomber dans le piège du « il faut » en faisant de la lecture de la Bible une obligation et un fardeau à porter. C'est plutôt quelque chose à voir comme une grâce et quelque chose qui vient répondre à un besoin. Alors le besoin, c'est traître parce qu'on en a tous besoin. Mais est-ce qu'on le ressent, ce besoin ? Des fois, on ne le ressent pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne ressent pas le besoin qu'on n'en a pas besoin. Comment peut-on vivre une vie chrétienne qui plaît à Dieu sans savoir qui il est et ce qu'il attend de nous ? La parole de Dieu est puissante, vivante et efficace. Ne négligeons pas sa puissance. Rangée sur l'étagère, elle n'agira pas dans notre cœur. Rangée sur l'étagère, elle n'agira pas dans notre vie. C'est un combat que de prendre le temps d'écouter Dieu dans sa parole, et ce combat est spirituel. Soyons victorieux dans ce combat, non par la force, non par la loi, mais par l'Esprit de Dieu. Si la parole de Dieu est une lampe, alors on a besoin qu'elle nous éclaire. Si c'est une lumière sur le sentier, alors on en a besoin pour continuer à avancer sur le bon sentier. On ne peut pas rester dans le noir. D'ailleurs, il y a un verset dans l'évangile de Matthieu qui dit « On ne prend pas une lampe pour la cacher ». Alors c'est pour parler des chrétiens qui ont un témoignage à apporter dans le monde. Mais on pourrait dire la même chose. Si la parole de Dieu est une lampe, elle n'est pas là pour être cachée. Elle est là pour éclairer. On a besoin d'une lampe à nos pieds. Ce verset ne dit pas que notre vie entière ne sera que lumière si nous lisons la parole de Dieu. L'idée de ce verset est que la parole de Dieu nous permettra de marcher dans la lumière. Et cela n'exclura pas les épreuves. Certains commentateurs font remarquer à cet égard que la lumière est à nos pieds. Il ne s'agit pas d'un projecteur ultra puissant qui va éclairer l'autoroute bien lumineux devant nous. Non, c'est une lumière à nos pieds qui éclaire notre petit sentier. À l'époque, les lampes n'étaient pas très puissantes. Elle pouvait éclairer quelques mètres devant. La lumière de la parole de Dieu n'exclut pas la foi. Ce verset ne dit pas que tout va être clair, lumineux, on va tout comprendre, on saura à chaque instant quel choix faire. La parole de Dieu, évidemment, n'exclut pas la foi, mais elle nous permet de faire le pas suivant. Alors je voudrais vous poser une question, quel animal a la plus grande foi ? Alors ne répondez pas parce qu'on pourrait proposer plein de choses. Bon, je pense déjà qu'aucun animal a la foi, au sens où on l'entend, mais c'est une image. Alors, c'est le rhinocéros. Alors, j'étais jamais un rhinocéros, mais il paraît que les rhinocéros ne voient pas très loin. En fait, en étudiant leur œil, on a remarqué qu'il était mal ajusté, en fait, en quelque sorte, et que la mise au point se faisait avant la rétine, et donc il voit flou. Il voit apparemment, d'après ce qu'on peut lire, il voit 1 ou 2 mètres, peut-être 3, allez, 4, 5 peut-être, devant lui, mais guère plus. Donc il est très myope, et pourtant, il peut courir très vite. Bon, vous me direz, il a peut-être une protection avec la corne et tout ça, mais il peut courir très 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 vite, à plus de 40 km/h, à travers des broussailles, en voyant toujours que 3 ou 4 mètres devant lui. C'est l'animal qui a la plus grande foi. La lumière de la parole de Dieu, nous permet de faire le pas suivant, nous permet de voir un petit peu comme le rhinocéros des petites choses là, et puis d'avancer. Alors comment ? Par différents conseils que la parole de Dieu contient, les préceptes, l'enseignement qu'elle contient et les avertissements qu'elle contient. Et là, je cite un autre verset de la parole de Dieu, c'est le Proverbe 6, verset 23. « Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Je trouve merveilleux dans la parole de Dieu de voir des versets avec... des parallèles aussi proches que ce verset du psaume 119 que nous avons lu, puisqu'il contient aussi l'idée de lampe pour parler de la parole de Dieu, le précepte, le commandement, disons l'enseignement et les avertissements, mais il nous parle aussi ce verset de chemin. C'est une lumière aussi sur le chemin de la vie. Alors nous trouvons ces préceptes, cet enseignement et ces avertissements aussi bien dans les récits de la Bible que dans les textes de la loi, dans les épîtres du Nouveau Testament, mais aussi chez les prophètes. Et en fin de compte, selon chaque genre littéraire, la parole de Dieu s'exprimera différemment, dans la forme, mais pas dans le fond. Le message reste le même. En 2 Pierre 1,19, on peut lire, c'est la parole prophétique qui est comparée à une lampe aussi qui brille dans un lieu obscur. Donc la parole de Dieu est une lampe. Deuxième image, la parole de Dieu est une nourriture. Donc là, voilà, on va pouvoir voir plusieurs éléments de la nourriture. Si la parole de Dieu est lumineuse, elle est aussi symbolisée par donc, des éléments de nourriture, des différents aliments tels que le pain, le lait ou le miel. Et nous avons déjà cité ce verset, dans la première partie de notre culte, en Matthieu 4, verset 4, Jésus qui répond au tentateur en citant l'Écriture, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et c'est une citation que Jésus fait de la loi, du Deutéronome. Par cette réponse, Jésus dit que la parole de Dieu est comme une nourriture physique, mais au niveau spirituel, si l'homme se nourrit de pain pour pouvoir vivre chaque jour, la parole de Dieu est quant à elle une nourriture pour que l'homme puisse vivre spirituellement. C'est comme si Jésus disait que la parole de Dieu est un pain spirituel et que ce pain spirituel est plus important encore que le pain que l'on peut acquérir à la boulangerie. Et lorsque Jésus dit ce verset, il a d'ailleurs très faim. Il a vraiment faim. Il est dans une période de jeûne de 40 jours. Il est probablement très faible, avec peu de force, et en plus dans la solitude du désert, dans un moment de tentation, où le diable essaye de le détourner de sa mission. Mais il trouve des ressources dans la parole de Dieu. Et ces ressources le font tenir. Jésus dira même à ses disciples dans un autre chapitre que sa nourriture, c'est faire la volonté de son Père. Et il nous invite, nous aussi, à le manger Je lirai un texte tout à l'heure pour introduire la scène qui ira dans ce sens-là. Lui qui est la manne descendue du ciel. La parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Elle est comparée à de la nourriture solide, comme le pain, mais aussi liquide, comme le lait. Et là, une nouvelle image, voilà. Le lait que les nouveau-nés ont besoin. Et nous pouvons lire un verset donc, qui concerne cette fois-ci l'image du lait. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait pur de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et cela, nous pouvons le lire dans la première épître de Pierre. Et nous avons cette expression « le lait pur de la parole ». Autre image encore concernant la nourriture solide, c'est celle du miel. La parole de Dieu, en plus d'être nourrissante, qu'elle soit nourrissante pour les nouveau-nés, par le lait, ou pour par une nourriture plus solide, comme le pain par exemple, en plus d'être nourrissante, la parole de Dieu a un bon goût. Et c'est ce que cette image du miel veut nous faire comprendre. Les commandements de la parole sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ce que le psalmiste a voulu dire, c'est que les commandements de Dieu, alors en plus c'est les commandements là, hein, il parle de la loi. Les commandements de Dieu sont bons pour nous et même meilleurs que le miel. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu et que nous tenons compte des avertissements qu'elle contient, alors nous serons gardés d'un certain nombre de travers et ce sera meilleur que du miel, dit le psalmiste. Le miel est aussi un bon cicatrisant, d'après ce qu'on dit. J'ai jamais essayé. La parole de Dieu, pleine de grâce, a aussi une action cicatrisante, guérissante et cicatrisante. Le psalmiste voit même cela dans les commandements de Dieu qui nous sont donnés pour notre bien. Et de façon donc générale, le pain, le lait, le miel, si nous ne mangeons pas, pendant un certain temps, nous allons avoir moins de force. Nous allons avoir et ressentir de la fatigue, peut-être même des difficultés de concentration. Et bien de même, en ignorant nos besoins spirituels, comme ils sont comparés à de la nourriture, si nous ignorons nos besoins spirituels pendant quelques jours, nous serons affaiblis, même si nous ne le remarquons pas tout de suite. Et cela, cet affaiblissement, conduira au bout d'un certain temps, certainement au péché. Ce que ces versets nous disent, c'est que la parole de Dieu nourrit la dimension spirituelle de notre vie et c'est aussi la nourriture qui nous permet, bon, bien sûr, de vivre, d'exister, de subsister, mais aussi de grandir. À chaque stade de la croissance, il y a une nourriture adaptée. Le lait, la nourriture solide, et le miel, peut-être une fois que notre palais est affûté pour l'apprécier. Lorsque j'étais enfant, j'entendais des témoignages de différentes personnes qui disaient aimer la parole de Dieu. Et je trouvais cela étrange qu'on puisse aimer un livre de cette façon et le dire en public. Et puis j'ai compris, en lisant cette parole, ce que ces personnes voulaient dire avant moi. Et aujourd'hui, je peux vous témoigner aussi que j'aime la parole de Dieu. Elle est une nourriture, je peux en témoigner, et une lumière. J'aime la parole de Dieu car elle me dit la vérité concernant Dieu, et cette vérité est une bonne nouvelle. C'est la vérité de l'amour de Dieu et son projet de bonheur pour notre vie et pour l'éternité. Je vois aussi dans la parole de Dieu que j'ai du chemin à parcourir encore. Mais ce chemin, je ne le fais pas tout seul. Jésus, elle, est là, comme on l'a dit dimanche dernier. Jésus est là. Et non seulement Jésus, mais aussi mes frères et sœurs sont là. Et ces frères et sœurs, c'est Jésus qui me les donne. Dieu est vraiment merveilleux. Et je le sais parce que je le vois, mais aussi parce que sa parole me permet de le voir. Alors, bien sûr, quand on dit qu'on aime la parole de Dieu, ne comprenez pas que nous voulons dire, en disant aimer la parole de Dieu, idolâtrer la parole de Dieu, ou adorer dans le sens de l'adoration qui n'est réservée qu'à Dieu. Il ne s'agit pas d'idolâtrer la parole de Dieu, mais elle a une place particulière dans notre cœur, justement parce qu'elle nous révèle la personne de Dieu. Et nous aimons la parole de Dieu parce que nous aimons le Dieu qu'elle nous révèle et le Dieu que nous adorons. Si la parole de Dieu me révèle Dieu, elle me révèle aussi ce que je suis et qui je suis devant Dieu. Et c'est Jacques, le frère de Jésus, qui nous dit ceci, et c'est l'image suivante. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. La Bible comparait ici à un miroir qui nous donne une juste et honnête image de qui nous sommes devant Dieu. Alors vous savez peut-être dans la littérature française, peut-être même dans d'autres pays d'ailleurs, au XIXe siècle, il y a un courant de cette littérature qu'on a appelé le naturalisme. Et c'est quoi le naturalisme? C'était simplement des auteurs qui écrivaient la vie telle qu'elle était vécue à l'époque. Et on connaît, en tout cas on est assez fiers en général en France de notre littérature, des ouvrages, par exemple, comme Germinal, qui nous raconte la vie des mineurs français au XIXe siècle, ou La Terre, la vie des paysans, etc. Et puis, pour décrire un petit peu l'arrivée de ces différents ouvrages, c'est un auteur aussi du XIXe siècle, Stendhal, qui disait « Le naturalisme, c'est quoi ? C'est comme si on prenait un miroir et qu'on le baladait au bord d'un chemin pour montrer la réalité telle qu'elle est. » La Bible n'a pas attendu que les auteurs français se disent bah, « Tiens, ce serait intéressant de raconter la vie telle qu'elle est. » Elle, déjà bien avant, raconte, elle aussi, la vie telle qu'elle est, et surtout, elle veut montrer le cœur de l'homme tel qu'il est. La Bible est ce miroir qui se promène pour nous montrer l'image de la réalité telle qu'elle est et de notre propre cœur. Car on y trouve une description honnête et juste de l'homme. Il est à la fois, cet homme, le sommet de la création, à une place d'honneur, avec les responsabilités bien sûr qui s'y attachent, et en même temps, une créature inconstante, défaillante, à cause de sa rébellion envers Dieu. La Bible ne cache pas les fautes des grands hommes et femmes de Dieu. Et en faisant cela, elle est comme le miroir du cœur humain, et donc du mien aussi, lorsque je la lis. Qui n'a jamais été repris, s'est senti visé par une exhortation de Paul? Qui ne s'est jamais senti visé personnellement par un autre verset de la parole de Dieu? Dieu parle dans sa parole pour nous révéler qui nous sommes devant lui. Des enfants bien-aimés, mais avec des progrès à faire encore. Il faut que tu grandisses et que je diminue, disait Jean-Baptiste. Alors à la question, miroir, miroir, dis-moi qui est le plus beau, la parole de Dieu répondra, tu es beau, mais il y a encore plus beau, Jésus-Christ. Il faut que lui grandisse et que je diminue. Alors cela nous pose à chacun la question de la mise en pratique de la parole. Qu'est-ce que je fais ensuite du portrait que la parole de Dieu fait de moi? Est-ce que cela me laisse indifférent? Si oui, pourquoi cela me laisserait indifférent? Est-ce que j'ai des réticences ou peut-être des résistances à l'idée de devoir changer encore, de ne pas être arrivé au but déjà? Si la parole de Dieu nous montre la réalité telle qu'elle est, elle ne s'arrête pas non plus à ce rôle de miroir pour ensuite nous laisser sans aucune aide. Et c'est l'image suivante, Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et ce que ce verset nous dit, c'est que la parole est certes un miroir, mais elle agit aussi. Elle agit, cette parole. C'est une parole vivante et efficace. L'Esprit de Dieu prend la parole de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Et dans Éphésiens 6, on peut lire aussi « Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu ». La parole, dans ce verset, nous juge avec justice et amour. Et elle nous permet également de nous défendre, cette parole. Nous sommes des créatures de Dieu, bien-aimées de Dieu. Et dans ce sens, la parole de Dieu est une arme pour combattre aussi les mauvaises pensées, celles qui ne viennent pas de la parole de Dieu, les mensonges de l'ennemi. Jésus s'est défendu par la parole devant les tentations de Satan. Les pensées du style « tu ne vaux rien, tu devrais avoir honte » ou bien « tu n'y arriveras pas » sont combattues par l'épée de la parole de Dieu qui nous dit au contraire la valeur inestimable que nous avons tous auprès de Dieu. En nous saisissant de la parole comme d'une épée, nous combattons notre ennemi et les mauvaises pensées qu'il veut nous donner. La Bible est une épée, une arme qui nous défend. Mais alors, que faire des parties de la parole de Dieu plus difficiles à comprendre? Notamment toutes les paroles de jugement dans l'Ancien Testament. Sont-elles aussi des paroles de Dieu? Et là, nous pouvons lire Jérémie qui a écrit de la part de Dieu, et c'est l'image suivante. « Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc ?» Alors là, on a une image plus difficile de la parole de Dieu, un marteau qui brise le roc. Et c'est vrai, les prophètes ont souvent prophétisé des malédictions sur les nations idolâtres dans l'Ancien Testament, ainsi que d'ailleurs sur le peuple de Dieu. La parole des prophètes annonçait la certitude de la destruction de certaines villes et même la chute de grands empires. La parole de Dieu avec ses avertissements est aussi quelquefois comme un marteau. Un marteau qui brise le roc, je fais remarquer cela. Hein. Ce n'est pas un marteau qui brise quelque chose de le verre. C'est un marteau qui brise le roc. Ben, pour briser le roc, pour briser quelque chose qui est dur, il faut un marteau. Hein. Les ouvriers qui refont la rue devant la rue des Charpentiers n'utilisent pas une cuillère pour enlever le macadam. Avant d'en remettre un nouveau, ils utilisent des pelleteuses. Quand notre cœur est dur, et quand c'est même des fois une nation entière endurcie, un peuple entier endurci, Dieu alors prend le marteau pour faire son œuvre en nous. Mais il brise ce qui est dur. Donc c'est pour faire du bien et puis pour construire du neuf. Démolir pour ensuite construire de neuf. C'était d'ailleurs la mission du prophète Jérémie qui devait annoncer le jugement de Dieu qui contenait une partie de destruction avant de reconstruire du neuf. Toutes les fausses sécurités du peuple qui croit pouvoir échapper au jugement de Dieu sont détruites par la parole de Dieu afin que le peuple place sa confiance tout entière en Dieu et non en lui. Autre image. Et qu'elle est dans le même verset d'ailleurs, du prophète Jérémie. Nous lisons « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» dit l'Éternel. Ou alors vers le début du livre aussi de Jérémie. « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. » Et dans le Nouveau Testament aussi, nous trouvons une autre image encore, la parole de Dieu comme le feu, en lisant « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» La parole de Dieu est comparée aussi à un feu qui brûle et consume, ou bien un feu qui réchauffe et encourage. Alors attention à ne pas jouer avec le feu. Alors, je ne vais pas trop développer cette image, mais simplement faire remarquer que c'est probablement le même feu qui consume et qui réchauffe. D'ailleurs, dans un des prophètes de l'Ancien Testament, Malachie, au chapitre 3, nous voyons que le même feu à la fois consume et purifie. La même parole de Dieu condamne et sauve, juge et sanctifie. Exemple. Lorsque nous lisons, par exemple, « Ôte la poutre qui est dans ton œil et ensuite tu pourras enlever la paille de l'œil de ton frère. » Cette parole juge. Juge l'orgueil humain, mais nous montre aussi, en même temps, la voie de la sainteté. D'abord, ôter la poutre qui est dans son œil est une façon de parler de la sanctification. La même parole juge et sauve, pourvu qu'on la mette en pratique. Et on pourrait faire le même exercice avec bien d'autres versets qui, oui, jugent le cœur de l'homme, mais en même temps montrent la grâce de Dieu et le chemin à suivre. La parole de Dieu est encore comme l'eau. L'eau qui purifie. Dans Éphésiens 5, il est question de l'eau de la parole qui lave. L'eau de la parole qui lave. La parole de Dieu n'est pas un livre comme les autres. Les vérités qu'on y lit nous forment, nous transforment et nous purifient. Et dans le contexte d'Éphésiens 5, cette parole qui lave, c'est la parole qui lave, qui purifie l'Église qui se prépare au mariage. C'est Jésus, le mari, l'époux, qui participe à la préparation de son épouse afin qu'elle soit sans tache ni ride, lavée par l'eau de la parole. Alors sans tache, ça fait allusion à la pureté, et sans ride aussi, peut-être parce que l'Église doit être pertinente encore aujourd'hui, malgré son grand âge, plus de 2000 ans. Mais cette image de l'eau, on la retrouve aussi dans l'Ancien Testament, au chapitre 55 d'Ésaïe, où il est question de l'eau qui fait son effet, comme la neige et la pluie qui arrosent la terre, de laquelle pousseront de belles plantes et des fruits. Si vous pensez être sec après avoir lu la parole de Dieu, rappelez-vous ce texte qui affirme que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir eu son effet, comme la neige ou la pluie tombe sur le sol pour rendre la terre fertile. La parole de Dieu est comme cette eau qui vient pour ensuite que nous portions du fruit. Ensuite, autre image, la parole de Dieu, les Écritures sont encore symbolisées par des métaux précieux tels que l'argent. On peut lire « Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé au creuset et sept fois épuré. » Psaume 12, verset 6, ou par exemple un autre verset avec l'image de l'or, « Les commandements de la parole sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. » Ces versets nous enseignent principalement deux choses, l'aspect précieux, bien sûr, de la parole, comme l'argent et l'or, mais aussi la pureté de la parole qui est sans erreur. La parole est sept fois épurée, comme nous le dit le psaume 12, verset 6. Donc épurer un métal, c'était, il fallait le faire fondre pour enlever toutes les impuretés. La parole de Dieu est 7 fois épurée. Elle est sans erreur. Enfin, comment ne pas finir avec la parole incarnée? On peut mettre l'image. Vous avez là le portrait d'un homme vivant en Palestine à l'époque de Jésus, un portrait recréé avec nos connaissances scientifiques actuelles et à partir de crânes aussi, de la forme du crâne, de crâne datant de cette époque et de cette région. Si vous tapez sur Google « visage de Jésus », vous allez tomber très rapidement sur cette photo-là sur Internet. Alors bien sûr, on ne peut pas savoir si nos connaissances actuelles font bien le travail, mais voilà peut-être à quoi ressemblait un homme de la Palestine du temps où vivait Jésus. Jésus-Christ est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ou encore un verset de l'Apocalypse, même en parlant de Jésus, qui nous dit « Son nom est parole de Dieu ». Dieu s'est tout d'abord révélé à l'humanité en parlant à travers des prophètes pour nous donner une parole qui est écrite. Puis dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils unique, Jésus-Christ, qui est dans le sein du Père et qui nous l'a fait connaître. Si nous voulons savoir à qui ressemblerait Dieu sur la terre, nous avons la réponse dans la personne de Jésus-Christ. Inutile de se poser la question, Dieu a déjà répondu. Voilà. Et je suis venu pour vous montrer qui je suis. Et si j'étais un homme, voilà qui je serais encore aujourd'hui. Il a non seulement parlé, Jésus-Christ, enseigné, et donc le titre de parole de Dieu lui convient bien à cet égard, mais il y a plus encore dans ce titre parole de Dieu. Il est lui-même Dieu sur terre, et il a parlé en son nom. Pas simplement comme les prophètes qui disaient « Dieu dit », mais il a dit « Je dis ». Vous voulez savoir ce que Dieu demande? Alors, lisons les commandements, les paroles de Jésus-Christ. Obéir, suivre Jésus-Christ, c'est obéir à Jésus-Christ. Dieu s'exprime par Jésus-Christ, qui peut donc parler. En son nom, il est lui-même la parole de Dieu, le Fils de Dieu, Dieu lui-même venu sur la terre. La parole a été faite chair. Alors, on peut s'amuser aussi à relier finalement la parole incarnée avec toutes les images que la parole contient pour parler d'elle-même. Jésus-Christ est la lumière du monde, une lampe à nos pieds. Jésus-Christ est le pain de vie, la nourriture. Jésus-Christ est celui duquel l'épée de la parole sort de la bouche. Tout ce que nous avons vu à propos de la parole écrite, nous pouvons le retrouver dans la parole incarnée, dans la personne de Jésus-Christ. Il est celui qui juge et sauve à la fois. Il est la vérité, l'eau vive, le trésor le plus précieux que l'argent ou l'or, etc. C'est en tournant nos oreilles vers lui que nous entendons la parole de Dieu. Conclusion. Que la parole de Jésus-Christ habite parmi nous abondamment. Amen.